Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab sur le 88.4 en FM et en DAB+, et aussi en streaming sur notre site. Merci aussi si vous nous écoutez sur Radio Bois dans toute la Bretagne. Tout de suite, c'est le flash de Roman.
En ce 7 octobre 2025, difficile de ne pas penser à Gaza, 2 ans que l'enclave palestinienne est assiégée, bombardée, affamée, 2 ans que l'attaque du Hamas sur Israël a déclenché une guerre dont les civils payent le prix.
C'était il y a 2 ans, le 7 octobre 2023, des commandos du Hamas attaquent le sud d'Israël. Plus de 1200 morts, des civils pour la plupart, et environ 250 personnes prises en otage. En face, Israël riposte immédiatement. Bombardement massif, blocus total, puis invasion de Gaza. Une guerre éclate. Depuis, les violences n'ont jamais cessé. Plus de 66 000 Palestiniens et Palestiniennes ont été tués, selon le ministère de la Santé locale, et près de 170 000 blessés.
La situation humanitaire est catastrophique.
En effet, Roman, près d'un quart des Gazaouis vivent dans des conditions proches de la famine. Toujours selon l'ONU, la majorité n'a pas accès à l'eau potable ou aux soins. En août dernier, les Nations Unies ont confirmé que la famine est officiellement en cours dans le gouvernorat de Gaza. L'accès à l'aide humanitaire reste extrêmement limité. Israël contrôle strictement les entrées et a suspendu plusieurs fois les livraisons. Les distributions donnent lieu à des scènes de chaos et de violence. Entre mai et octobre, plus de 2500 morts ont été recensés lors de ces distributions. Dans ce contexte, des mobilisations civiles tentent de briser l'isolement. La flottille Global Summit Flotilla, partie depuis plusieurs ports méditerranéens, a vu ses bateaux attaqués. Parmi les passagers et les passagères de cette flottille, 4 élus LFI, les députés François Piquemal et Marie Mesmer, ainsi que les eurodéputés Rima Hassan et Emma Fourreau. Ils affirment avoir subi des mauvais traitements et des pressions psychologiques.
Sur le front militaire, Israël a intensifié ses offensives entre mai et août 2025.
Et oui, Roman, le gouvernement a validé un plan de conquête totale de Gaza. Une offensive terrestre a été lancée le 16 septembre, alors qu'une commission d'enquête de l'ONU accusait Israël de génocide contre la population palestinienne. Le conflit s'est aussi étendu. Au Liban, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué dans un bombardement israélien. En mer Rouge, les Houthis du Yémen ont multiplié les attaques. Et en Iran, Israël a lancé des frappes visant des infrastructures nucléaires.
Côté diplomatique, un plan de paix américain est sur la table depuis fin septembre.
Soutenu par Israël et accueilli par un « oui, mais » par le Hamas, il prévoit la fin des combats, la libération des otages et des prisonniers et un accès humanitaire élargi. Les discussions en cours à Sharm el-Sheikh, depuis le début de la semaine, réunissent des délégations israéliennes et palestiniennes sous médiation égyptienne et américaine. Donald Trump, redevenu très actif sur le dossier, affirme qu'un accord est à portée de main. Mais les obstacles restent nombreux. 47 otages sont encore détenus par le Hamas, dont 25 sont considérés comme morts. Israël réclame leur libération sans condition. Le Hamas, lui, demande la levée totale du blocus et le retrait militaire. 2 ans après le 7 octobre, Gaza est en ruine, la population palestinienne endure l'indicible, et malgré les appels pressants de l'ONU ou de la Cour internationale de justice, le gouvernement israélien poursuit sa stratégie militaire sans qu'aucune commission d'enquête indépendante sur les événements du 7 octobre n'ait vu le jour.
Pourtant, une issue politique semble pour la première fois sérieusement envisagée. Le monde entier a les yeux tournés vers l'Égypte et peut-être cette fois vers la paix. Le jeune franco-allemand Lennart Monterlo, 19 ans, a été acquitté et libéré après près de 4 mois de détention en Iran. Il a été arrêté en juin pour espionnage alors qu'il traversait le pays à vélo. Sa libération intervient dans un contexte diplomatique sensible. Téhéran évoque une libération prochaine, incluant un possible échange de prisonniers. Sont concernés les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis 2022. et une ressortissante iranienne emprisonnée en France, Mahdieh Esfandiari. Ce geste nourrit l'espoir d'un dénouement pour les deux enseignants français, accusés eux aussi d'espionnage, et montre que Paris et Téhéran cherchent à désamorcer les tensions entre leurs gouvernements. 9 millions d'euros, c'est la somme que le gouvernement suédois est accusé d'avoir versée à la Somalie. En contrepartie de cet argent, le renvoi de 28 Somaliens vivant illégalement en Suède. Selon une enquête de la radio publique suédoise, parue début octobre, cet argent devait servir à l'aide publique au développement. Et au lieu d'utiliser les canaux habituels, une partie de cet argent aurait été directement versée à des proches du Premier ministre somalien, ce qui fait craindre un cas de corruption. Ces révélations provoquent un scandale politique en Suède. La droite libérale conservatrice et l'extrême droite, au pouvoir depuis 2022, avaient promis, lors de leur campagne, plus de transparence dans la gestion de l'aide internationale. Même les eurodéputés ont sorti le pop-corn devant le spectacle que la politique française offre au monde. Entre la démission surprise de Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron qui lui demande de rétablir la situation en moins de 48 heures, forcément, ça inquiète les eurodéputés. Tout le monde commence à être réellement inquiet, confie l'eurodéputée Aurore Laluc, du parti Place Publique. Côté France Insoumise, Manon Aubry appelle à une remise en question du mandat présidentiel d'Emmanuel Macron. Marie-Pierre Védrenne, du Mouvement démocrate, plaide à l'inverse pour la formation d'une union entre le centre, les socialistes et les verts, à l'image du modèle européen, dans une idée de restaurer la confiance et la stabilité politique. Savez-vous ce qu'est l'effet tunnel quantique ?
Non, pas du tout. Dis-nous tout.
L'Académie royale des sciences de Suède a décerné aujourd'hui le prix Nobel de physique à 2025 à trois chercheurs, le britannique John Clark, l'américain John Martini et le français Michel Devoret. Le trio a été récompensé pour leur recherche sur la mécanique quantique et plus précisément l'effet tunnel quantique. L'effet tunnel, c'est quand une particule traverse une barrière qu'elle ne devrait pas pouvoir franchir, un peu comme si une balle passait à travers le mur. Ce phénomène étrange permet aujourd'hui de faire fonctionner les ordinateurs quantiques, mais c'est aussi l'un des meilleurs détecteurs de champs magnétiques, selon Julien Barbroff, physicien au CEA, commissariat à l'énergie atomique.
Merci Jamie.
43 840 animaux tués chaque jour pour nourrir les Rennais et Rennaises depuis le début du mandat de Nathalie Appéré en 2020. C'est le chiffre révélé par L214, l'association de défense des animaux a donc décidé d'interpeller la mairie et les candidats et candidates aux municipales de 2026 en leur demandant de signer la charte du sauvetage du siècle. Objectif, épargner 600 millions d'euros d'animaux en France chaque année. Valérie Jacotin, référente L214 pour Rennes, précise au micro de l'Afken Zepeda les contours de l'action qui sera menée ce samedi.
Actuellement, chaque minute qui passe, c'est 30 animaux qui sont abattus pour la ville de Rennes. Donc, en fait, si on devait remplir, par exemple, le Razon Park, eh bien, il faudrait seulement 16 heures et 30 minutes pour pouvoir remplir ce stade. Du coup, notre action de samedi 11, c'est d'interpeller en fait la maire et les candidats aux élections municipales à s'engager en faveur des animaux, tout en étant dans notre perspective de diminuer en fait de 50% le nombre d'animaux tués en 2030. On fera un compteur humain où justement on décomptera le nombre d'animaux tués par minute pour la ville de Rennes. Il y aura aussi du tractage, donc avec les demandes qu'on fait au niveau de la mairie de Rennes. Et il y aura aussi la possibilité de signer une charte pour les passants qu'on remettra du coup à la mairie. Les politiques publiques municipales peuvent changer la donne tout simplement en mettant en place des mesures qui contribuent à réduire de moitié le nombre d'animaux tués pour Rennes. Donc la maire de Rennes pourrait participer à épargner jusqu'à 7,8 millions d'animaux chaque année. Ne serait-ce que par la réduction en fait de la consommation de produits d'origine animale. L'instauration d'une option végétarienne quotidienne dans l'ensemble des cantines scolaires, la création d'un objectif d'exclusion des produits issus d'élevage intensif déjà pour les achats publics. Donc ça, il y a vraiment un fort potentiel d'agir au niveau des cantines scolaires dans son ensemble.
Les militants et militantes pour les droits des animaux se réuniront samedi, place de la République à Rennes, de 14h à 16h. Adjugé vendu. Hier à Rennes, une vente aux enchères s'est tenue à l'hôtel des ventes de l'Ouest Enchères Publique. Une trentaine de manuscrits, lettres et discours de Jean Jaurès étaient proposés à la vente. Les enchères se sont envolées pour ces documents signés de la main du fondateur du socialisme français et du journal L'Humanité. Parmi les lots proposés, un hommage posthume à Émile Zola, adjugé 2700 euros, mais aussi des manuscrits rédigés en 1899, en plein procès du capitaine Dreyfus, que Jean Jaurès défendait. Ce dernier ensemble a été vendu 2900 euros. Des pièces historiques majeures et inédites, selon le commissaire-priseur Pierre-Guillaume Klein, découvertes dans le grenier d'un habitant de Saint-Malo. À quelques marches de la coupe, les M15 féminines du Mont-Germont Volleyball Club se sont qualifiées pour le tour suivant de la Coupe de France. L'équipe de National 3 a signé son troisième succès ce week-end en remportant deux matchs sur le score de 2-7-0 face au Rennes EC et à Van VB. Les prochaines rencontres auront lieu à domicile. Samedi 18 octobre, l'équipe affrontera Guignan en pré-national dans la salle de la Duchesse Anne à Mont-Germont. Dimanche 19 octobre à 15h, les M15 joueront en National 3 contre l'élan sportif de Carpiquet VB. Venez les encourager.
Oui, merci Romane et à mardi prochain pour un nouveau flash.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Il est temps de passer à l'interview. Est-ce qu'on pourrait avoir... Oui, le bed en moins. Merci, Maud. Qui reçois-tu ce soir, Lafken, dis-nous tout.
Eh bien, moi, je reçois pas mal de monde ce soir. On est une belle petite tablée. Et pour commencer, pour poser le contexte, il y a 20 ans, le 11 février 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées était promulguée. Depuis, le nombre d'étudiants en situation de handicap a été multiplié par 10 à l'université, 4862 en 1999 et 48835 en 2022. Aujourd'hui, pour parler de la rentrée du dispositif du relais handicap de Rennes 2, nous recevons Émilie Billon, responsable du relais handicap de Rennes 2.
Bonsoir.
Bonsoir. Mais nous recevons également Christina Navarro et Maëlys Ezano, chargée d'accompagnement au relais handicap.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et Julien, étudiant en situation de handicap à Rennes 1 en philo, si je ne me trompe pas.
Oui.
En philo.
Ça, bonsoir.
Bonsoir, pour nous accompagner lors de cet échange. Alors pour commencer et pour débuter cette interview, je vais vous poser à vous, Émilie Billon, cette question. Est-ce que vous pourriez nous définir le relais handicap brièvement à Rennes 2 ? On va évidemment approfondir par la suite pour vos missions, vos actions, mais simplement comme ça, le relais handicap, c'est quoi ?
Alors, le relais handicap, c'est un dispositif qui permet, en fait, qui a été créé il y a plus de 30 ans pour accueillir les étudiants et les accompagner lorsqu'ils ont des situations médicales, donc des situations de handicap au sens de la loi, finalement, même si ça a été lancé avant cette loi. Et l'idée, c'est qu'on puisse mettre en place des aménagements à la fois sur la scolarité des étudiants et sur leurs examens selon leurs besoins pour qu'ils puissent avoir une scolarité aussi sereine que possible et effectivement arriver à l'égalité des chances pour tout le monde.
Et pour l'histoire, est-ce que vous savez de quel besoin est né ce relais et puis pourquoi à l'université de Rennes 2, pourquoi c'est important à l'université d'avoir... Et puis peut-être que Julien pourra également répondre à cette question par la suite.
Alors, pour l'historique, c'est une enseignante qui était rattachée au SUIO qui avait lancé ce dispositif. Je pense que c'est venu d'un besoin de terrain, c'est-à-dire qu'assez rapidement, on voit dans les suivis qu'on a avec nos étudiants que sans aménagement, il y a des scolarités qui ne seront pas possibles et que parfois, en mettant en place juste des petites choses, et ben simplement, la personne va avoir accès à un diplôme, à une scolarité épanouissante, intéressante. Donc je pense que c'est né comme ça. Peut-être que Julien veut compléter.
Justement, quels sont les moyens mis en œuvre pour faciliter cette aide ? Est-ce qu'il y a des prises de notes ? Est-ce qu'il y a des audios afin de mis en place ?
Alors la grande difficulté qu'on a dans la mise en place des aménagements, c'est que tout ce qui peut être mis en place par nous directement, c'est fait sans difficulté. Ça va être le passage des examens au relais, ça va être le prêt de matériel, notamment ordinateur. Par contre, quand on est sur l'aménagement de cours, la difficulté, c'est que dans la loi française, on a, enfin dans le code de l'éducation, les enseignants ont toute liberté, en fait. Donc, nous, on peut proposer des aménagements, les médecins peuvent les valider, et en fait, dans une certaine mesure, un enseignant peut mettre une limite, peut refuser d'être enregistré, peut trouver que certains aménagements ne sont pas compatibles aussi avec la formation. Donc, c'est aussi notre travail, ça va être d'aider à trouver pour l'étudiant quelle est la meilleure solution pour que ses besoins soient pris en compte, mais que les acquis de la formation soient aussi... que l'étudiant puisse justement acquérir les compétences nécessaires. Mais pour la mise en œuvre des moyens, on a une dotation du ministère tous les ans qui est calculée par rapport au nombre d'étudiants qu'on a recensés. Donc on a une dotation numéraire. Par contre, ce n'est pas une dotation qui va couvrir de l'emploi, du recrutement. On ne peut pas embaucher des personnes avec cet argent. Donc on peut acheter du matériel, on peut recruter des vacataires, on peut recruter des preneurs de notes quand on en a qui sont volontaires. Mais voilà, voilà nos moyens.
Et est-ce que les étudiants ne peuvent pas instaurer un système de WhatsApp spécial pour les cours parce que nous, on a ça pour... tous les cours à Rennes. Ah oui, justement. Pour mettre tous les cours que les personnes peuvent pas prendre.
Ne peuvent pas suivre, d'accord.
Mettre tous les cours sur WhatsApp. Comme ça, tout le monde a les mêmes cours.
Et c'est les enseignants qui mettent ça en place ou c'est les étudiants?
C'est les enseignants et les étudiants en même temps.
En fait... On a aujourd'hui sur une plateforme, la plateforme Cursus, on a la possibilité, en tout cas les enseignants, la possibilité de partager leurs cours. On sait que certains le font en amont et on en a d'autres qui ne le font pas du tout. Donc c'est, comme je vous disais, ça va être à la carte selon les enseignants. Il est tout à fait possible à un groupe d'étudiants d'aller voir un enseignant et de lui proposer tout à fait ce genre de dispositif. Où, voilà. L'enseignant a tout à fait le droit de vous dire non également.
Et parce que effectivement là, on parle... des aides et que vous apportez aux étudiants qui font appel au relais handicap. Est-ce que justement vous pouvez un petit peu développer cet aspect-là, parce que sur la brochure de Rennes 2, on lit énormément d'actions mises en place par le relais handicap. On a des aménagements aux examens, aide à l'insertion professionnelle, accessibilité à la formation. En quoi est-ce que ça consiste tout ça pour pas que ce soit trop flou? Et puis évidemment, j'invite Christina et Maëlys à pas hésiter à prendre la parole aussi, sans tout citer. Voilà, est-ce que vous avez des exemples précis de ce que vous proposez?
Alors, on a deux catégories d'aménagements. Donc, on a des aménagements pour les cours, tout ce qui va être une dispense d'assiduité, avoir un statut d'assidu avec absence justifiée, l'aide à la prise des notes, etc. Et on a aussi une catégorie d'aménagements pour les examens. Donc les classiques tiers-temps, le temps compensatoire, le passage en petit groupe avec nous dans les locaux du relais handicap. Donc c'est vraiment identifié pour les cours et pour les examens. À part, on a des aménagements qui sont très spécifiques. C'est ces aménagements qu'on va mettre en fonction du besoin de l'étudiant. Donc ça va être par exemple, je n'ai pas une idée concrète maintenant, mais... Ça peut être avoir une adaptation du passage de la langue, des choix de la langue, passer plutôt à l'écrit qu'à l'oral, etc. Donc on va vraiment adapter les aménagements en fonction des besoins des étudiants.
Et pour compléter ce que disaient Émilie et Christina, effectivement c'est là où le relais handicap a un rôle vraiment, en tout cas des liens transversaux à travers l'université, puisqu'on parle vraiment et on discute au quotidien avec les services de scolarité, avec les responsables pédagogiques, on est beaucoup en lien avec le service de santé des étudiants. Donc en fait, pour mettre tout ça en place, nous on est un petit peu la porte d'entrée, mais après évidemment ça se valide avec les médecins, ça se valide avec les services de scolarité et les responsables pédagogiques pour que tout puisse correctement se mettre en place.
Et là, quand vous parlez effectivement de validation, c'est une question toute bête, mais qui est quand même assez centrale. Qui est-ce qui peut bénéficier aujourd'hui des aides que vous proposez? Dans quelles situations généralement médicales doivent se trouver les élèves qui viennent vers vous? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir?
Alors justement, avec la loi de 2005, les champs se sont beaucoup ouverts. Quand on est au collège, au lycée, il va falloir avoir un PAP, un PAI. Parfois, on demande un suivi par un orthophoniste ou à la MDPH. À l'université, à partir du moment où on a une condition médicale validée par un médecin, c'est-à-dire qu'un médecin vous fait un certificat en disant que vous avez soit une condition médicale, soit des difficultés clairement identifiées, c'est possible d'avoir des aménagements. C'est tout ce qu'on demande à notre niveau. Après, nous, là où on met en garde nos étudiants, c'est qu'en sortant de l'université pour les stages et l'emploi, il y aura de nouveau des démarches plus lourdes. Mais aujourd'hui, et c'est un des messages qu'on espérait faire passer aujourd'hui, vraiment toutes les personnes qui ont un sujet médical, mais que ça va de la santé mentale, toutes les limitations physiques, tous les 10 évidemment qu'on connaît bien, mais tout, à partir du moment où vous avez besoin, où vous avez des besoins différents à cause d'une, enfin pour une raison médicale, il est possible d'avoir un suivi et un aménagement surtout. Et c'est pour ça, parfois, les étudiants s'auto-censurent, viennent un peu en bout de ligne après avoir passé les examens parce que c'est très dur. Non, si vous voyez un médecin, si vous avez une ordonnance, il y a des bonnes chances que vous puissiez être suivi au relais.
Je me permets juste de rajouter que nous aussi, nous accueillons des étudiants qu'ils suivent une fracture, une blessure, donc c'est vraiment ouvert dans le sens large d'une situation de santé. C'est temporaire, mais le relais prend en charge ces étudiants.
Et là, du coup, on a un petit peu abordé l'aspect scolaire du relais handicap, puisque effectivement, voilà, on voit de l'aide à la prise de notes, même comme le disait Julien tout à l'heure, pour de l'aide de suivi au cours, etc. Mais il y a aussi des aides à apporter parfois au niveau de l'insertion sociale pour les élèves en situation de handicap. Je pense notamment à des événements, des rencontres. Est-ce que parfois le relais handicap propose des collaborations comme ça pour essayer aussi d'insérer plus socialement dans la vie étudiante les élèves en situation de handicap ?
Alors techniquement, c'est un terrain sur lequel on pourrait aller, puisque les structures handicap des universités doivent accompagner sur la scolarité, mais également la vie étudiante. Donc c'est pas exclu. Aujourd'hui, en fait, on n'est que 5. C'est déjà, l'équipe a grandi, mais c'est vrai qu'on a déjà, en se concentrant sur les examens et les aménagements de cours, on n'est pas de trop de 5. Idéalement, effectivement, il faut qu'on aille vers ça. Après, c'est vrai qu'on sait qu'en DIREN2, l'association fait un travail super là-dessus. Et il y a aussi le fait qu'on va signer le 12 novembre la charte ATP Friendly, où il y aura également des outils. Alors c'est plutôt pour les personnes qui ont des troubles du neurodéveloppement ou les personnes neurodivergentes. Il y a des outils aussi, pas forcément des rencontres physiques, mais des cafés virtuels. Il y a des choses comme ça aussi, parce que comme vous le dites, c'est un aspect important de la vie étudiante. C'est pas juste les cours, c'est aussi rencontrer des personnes et trouver sa place à l'université. Aujourd'hui, on est assez peu sur ce terrain, mais avec des partenaires, on peut tout à fait espérer investir ce terrain davantage.
Et justement, Julien, je pense que c'est aussi le moment pour toi de témoigner de ça, parce que là, par exemple, je pense à un événement qui va avoir lieu, Va voir là-haut si j'y suis, qui lie escalade et danse avec une rencontre de l'artiste de Blind. J'en profite pour dire que l'événement aura lieu le 15 et 16 octobre à l'Agora Villejean. Il y a aussi une rencontre ce jeudi sur le campus de Villejean. C'est des exemples, mais est-ce que, Julien, tu trouves qu'il y a un investissement culturel et de loisirs pour les étudiants en situation de handicap à Rennes? Est-ce que c'est suffisant ou alors il y a encore du travail à faire?
Il y a encore du travail à faire, mais je pense qu'il y a une bonne avancée. Notamment, il y a beaucoup de choses qui se passe, excusez-moi, j'ai un problème, si j'hésite, ça m'en voulait pas, j'ai un problème. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent au 4 bis, notamment pour, en termes d'événements culturels, en termes d'intégration pour les personnes situation de handicap, il y a pas mal de choses, il y a du bénévolat, de l'intégration, on fait beaucoup d'intégration, parce que moi j'interviens aussi là-bas. On prend le temps de les écouter pour adapter leurs besoins, et en en termes de projet, de les accompagner au mieux, Donc, je pense que il y a pas mal de choses, mais voilà, il reste beaucoup de choses à faire, mais il y a pas mal de choses.
Et parce que là, voilà, on a discuté de la vie étudiante, aussi de ce qui était scolaire, et tout à l'heure, en coulisses, j'en parlais avec Julien, mais est-ce que vous trouvez, alors je donnerai d'abord la parole au relais handicap, mais ensuite aussi à Julien, vous trouvez que l'université de Rennes 2, elle est assez accueillante et accessible aujourd'hui pour les élèves que vous accompagnez, par exemple, pour ce qui est des ascenseurs, des panneaux un petit peu plus interactifs, tout ce qui est signalisation, vous en dites quoi de l'université de Rennes 2, mais peut-être aussi de Rennes en général?
Alors, je pense qu'il y a mieux à faire, on peut faire mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Il y a des travaux en cours, notamment sur la signalétique inclusive. Le projet Emerge, qui a rejoint Rennes 2, pareil, porte un volet sur les campus durables. Donc, c'est un travail qui est toujours en cours. On s'est rendu compte récemment avec un étudiant qu'il n'y a pas de marquage au sol pour les personnes non-voyantes à l'intérieur du campus. Quand on arrive au P, à la présidence, à la BU, il y a. Et en fait, une fois dans le campus, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est des choses qu'on va communiquer avec nos collègues de la DREAM. Et on peut faire mieux. Il n'y a pas aujourd'hui... on ne peut pas dire qu'on est parfaitement accessible pour tout le monde. Ce n'est pas vrai. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais que c'est un travail continu.
Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter.
Et oui, il y a aussi... Le relais handicap va reprendre un travail qui a été fait avec Andy Rennes 2, la DREAM et
la COM
pour refaire un plan PEMER. Donc en ce moment, on a un plan interactif sur les portails des étudiants, mais on n'a pas un plan physique en fait qu'on aimerait mettre en place. Donc voilà, on va rétablir les échanges, on va faire les vérifications nécessaires et ensuite on pourra mettre ça en place.
Et toi, Julien, du coup, de ton côté, on a compris que la vie étudiante, c'était peut-être pas encore ça, il restait du chemin à faire, mais que l'intégration se faisait de mieux en mieux. Est-ce que du côté de l'accessibilité, pour toi, tu trouves le campus quand même assez accessible? Ou pareil?
Il y a pas mal de rampes d'accès qui sont visibles. Mais il y a pas mal de marches, pas mal d'endroits où, par exemple, il y a des petites marches, on ne peut pas accéder. Donc, peut-être faire des adaptations par rapport à ça pour rendre au niveau des salles de cours ou des toilettes, enfin rendre ça plus accessible. Je suis pas rentré dans les toilettes précisément, mais certains endroits peuvent être exigus pour certaines personnes. Après, ça dépend du handicap, tout est relatif, tout dépend de chacun. Il y a des handicaps moteurs, des handicaps invisibles. Donc ça diffère de...
Oui, les besoins sont différents.
Oui, ça diffère.
Et d'où le fait que le campus doit être encore plus accessible et pour tout le monde. Et la diversité est vraiment, vraiment large. Pour finir, je laisse l'instant promo se faire. Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver les infos du relais handicap? Où est-ce qu'on peut se renseigner? On en a parlé tout à l'heure, mais voilà, pour savoir est-ce qu'on peut être accompagné au relais handicap. Voilà.
Alors, donc nous, on se trouve au 5e étage du bâtiment de la présidence. Donc, il y a 3 bureaux de relais handicap à P520, 521 et 522. Donc, nous, on peut vous recevoir n'importe à quel moment de la journée, en fait, parce qu'on est toujours là. Et aussi, vous pouvez nous trouver sur nos réseaux sociaux. Il y a des vidéos, des reels qu'on a mis en place pour identifier plus facilement nos locaux. Donc, on vous invite à venir nous rencontrer. On a une équipe très sympa. On va vous accueillir chaleureusement. Et voilà, sinon, on est disponible par téléphone ou par mail. Donc, nos coordonnées sont sur le portail étudiant.
Voilà, surtout, il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous voir si vous avez un besoin.
Eh bien, merci énormément au Relais Handicap de Rennes 2. Merci à Émilie, à Christina, à Maëlys. Et puis merci à toi, Julien, de bien avoir voulu venir pour témoigner avec nous.
Merci à vous.
Et, merci.
Et on vous rappelle de ne pas hésiter à vous rendre sur le site de l'Université de Rennes 2 dans la rubrique dédiée au Relais Handicap ou alors directement dans les locaux.
C'est ça.
6 heures avant minuit.
On passe à la chronique et comme tous les mardis, c'est chronique fake news. Aujourd'hui, c'est Lafken qui va nous décrypter une fake news. De quoi tu vas nous parler, Lafken?
Eh ben, tout à fait.
On t'avait perdu, tu peux reprendre.
Je reprends. Il est passé si proche du prix, mais malheureusement, le Nobel de la médecine ne lui a pas été attribué. Pourtant, ce pharmacien-chercheur avait tout pour révolutionner le monde scientifique. Écoutez-le.
First, effective immediately, the FDA will be notifying physicians that the use of acetaminophen. Is that okay? Which is basically commonly known as Tylenol during pregnancy can be associated with a very increased risk of autism.
Je crois que je le connais, ce pharmacien, mais je crois qu'il n'est pas pharmacien.
Eh bah, bien, c'était le 22 septembre. Et oui, Donald Trump s'en prend désormais à la médecine. Alors qu'être élu président de l'un des pays les plus influents du monde ne suffisait pas aux Américains pour se rendre compte de son incompétence, Donald Trump affirme maintenant que le paracétamol pourrait rendre les bébés autistes. Plus exactement, les femmes enceintes qui en prendraient pendant leur grossesse seraient responsables de troubles autistiques de leurs enfants. Alors, quelle preuve avance Trump ? Eh bien, pas grand-chose à vrai dire. En fait, le paracétamol ou acétaminophène est recommandé aux femmes enceintes contre la douleur ou la fièvre. Et cette molécule, elle poserait un gros problème. Elle est très dure à prononcer.
Acetaminophen.
Mais autre argument de taille du président, selon une rumeur, et j'ignore si c'est le cas, ils n'ont pas de paracétamol à Cuba, car ils n'ont pas de quoi s'offrir de paracétamol, eh bien ils n'ont quasiment pas d'autisme, ce sont ces mots. Traduction, les autistes sont tous riches, d'ailleurs je trouve ça fou qu'on les taxe pas un petit peu plus. On harcèle des pauvres citoyens honnêtes comme Bernard Arnault et Sarkozy alors qu'on est entouré d'autistes. Trump le dit aussi, les Amish ne se médicamentent pas. Et il n'y a pas d'amish autiste, certes. Après, est-ce qu'être amish, c'est pas déjà suffisant ? Je sais pas. Bon, et heureusement pour nous, Trump était accompagné de son ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr., lui aussi fin connaisseur du monde scientifique. Durant la pandémie du Covid-19, ce dernier affirmait que les gouvernements ont profité de la pandémie pour installer la 5G et permettre la collecte de données au profit de milliardaires tels que Bill Gates, Zuckerberg ou Bezos. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, parce que Trump a apparemment mené plein d'études super intéressantes et infondées, mais intéressantes. En réalité, rassurez-vous, hein, il n'y a aucun lien connu à ce jour entre la prise de paracétamol et la grossesse. Toutes les études que Donald Trump a pu citer étaient de simples travaux qui n'ont donné aucun résultat. Il s'agit donc de pure théorie, tout comme pour les vaccins auxquels Trump s'attaque. Deux des auteurs des travaux que Trump utilise, dont le docteur Baccarelli, ont souligné que les recherches n'étaient pas suffisantes pour affirmer quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas répondre à la question de la causalité, il est très important de clarifier cela, a déclaré de son côté le docteur Didier Prada, épidémiologiste au Mount Sinai et co-auteur de l'étude, dans une interview accordée ce mois-ci au New York Times. Si le sujet vous intéresse, de nombreux et nombreuses scientifiques ont pris la parole depuis, et de nouvelles études sont sorties. Bref, le sujet pose tout de même une question sociétale importante. Donnons-nous suffisamment d'attention et de confiance aux expertes et aux experts ? Avançons-nous dans la bonne direction lorsque nous préférons donner de l'importance à quelqu'un qui nous recommande de boire du gel hydroalcoolique plutôt qu'à des personnes qui vouent leur vie à rechercher et à comprendre ? En tout cas, on souhaite bon courage à Donald Trump dans sa réorientation en espérant que sa prochaine étude porte sur le dossier Epstein et qu'il sera aussi investi.
Merci Lafken. Et si on checkait notre répondeur mode ?
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllabe, la radio sauvage.
Bon, pas de succès ce soir, le répondeur est vide encore. Je le redis, vous allez le savoir par cœur à la fin de l'année. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Vous pouvez nous laisser un message, nous faire passer, ouvrir votre cœur, faire passer un coup de gueule, nous donner des idées de sujets, faire des retours sur ce qu'on a dit pendant l'émission. Bref, vous pouvez dire à peu près tout ce que vous voulez et nous, on le diffuse à la fin de l'émission. N'hésitez pas, je le redis, c'est le 02 30 96 25 35. Merci Maud pour la technique et à demain dans 6 heures avant minuit.
Sauvage.
Et le reptile.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h. Sur Syllabe,
la radio sauvage.